Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Vous êtes sur France Culture et nous poursuivons cette série sur cinéma et médecine, puisque une œuvre nous ouvre un questionnement médical et nous avons fait le choix cette fois-ci d'un film culte qui s'appelle Un vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un film de Miloš Forman qui a été fait en 1975 et qui pose des problèmes sur la santé mentale et sur la façon de la prendre en charge, bien entendu. Nous avons le plaisir, pour discuter de ce film, de la présence de Pierre Murat, qui est critique de cinéma, ancien directeur en chef de Télérama, et de Jean-Pierre Ollier, qui est chef de service de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, professeur d'université, avec lequel nous aborderons les traitements passés et actuels de la maladie mentale. Merci d'être là tous les deux ce soir. Une petite introduction.
Il a 38 ans. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Pour les médecins, il est fou.
Qu'est-ce qui a pu leur faire croire ça? Ça tient pas debout leur truc, franchement.
Jack Nicholson et Matt Murphy dans le dernier film de Miloš Forman.
Croyez-vous en votre fort intérieur que vous soyez mentalement touché?
Loin de là, docteur.
Excusez-moi, Miss. Est-ce qu'il vous serait possible de baisser un peu le disque que vous passez pour que nous puissions parler entre nous?
Vous salissez la glace avec vos doigts.
Seigneur, vous croyez donc qu'elle suit tous vos va-et-vient?
Il défie les autorités.
Ah, c'est pas vrai, vous n'allez pas me faire ce coup-là! Vous n'allez pas me faire ce coup-là! Ne nous faites pas chier avec ça, quoi, franchement, on a voté, le chef a voté, on était à 10 contre 9! Alors vous allez nous la brancher, cette télé, et tout de suite!
Je ne crois pas qu'il soit psychotique au sens strict.
Non, ça change!
Il serait dangereux.
Il défie l'ordre établi.
Nom de Dieu, à vous entendre, vous en avez marre. Tout le monde rouspète, vous dites tous assez de cette boîte et tout, et vous n'avez pas le courage de foutre le camp! Mais c'est pas vrai ça, mais qu'est-ce que vous imaginez? Que vous êtes dingue ou quoi? Eh bien, non! Et qu'est-ce que c'est que ça?
Vous voyez comme c'est facile?
Il s'imposa à un groupe d'hommes brimés, bridés, brisés, et leur redonna le goût de vivre.
Ça vous la coupe, hein? Tant de demeurer de cinglés, de minus abas, hein? Un hurra pour Murphy!
Il leur rendit ce qu'ils avaient oublié, leur dignité.
Merci, Mac. Merci. Je t'oublierai jamais.
Jack Nicholson incarne Mac Murphy. Lui est fou. Alors, que dire de nous?
Voilà donc l'introduction de ce film qui a reçu 5 Oscars.
Oui, 5 Oscars. La VF est dure.
La VF est un peu dure.
Est très très dure par rapport au film que j'ai revu. Et le film est un petit peu plus meilleur quand même que les voix qu'on vient entendre, pardon pour les doubleurs.
Non mais le film est génial. Franchement, il est génial. Les 5 Oscars, c'était quand même la deuxième fois après Capra en 36.
Exactement. Hein, exactement. Que les principales catégories étaient nommées et récompensées.
Alors, l'histoire.
Alors, c'est un roman qui est paru en 62 de Ken Casey, dont tombe amoureux véritablement le comédien Kirk Douglas. Et donc, il veut absolument le tourner au cinéma. Il n'y arrive pas vu le sujet parce qu'Hollywood a toujours été et est encore à l'époque assez craintif.
Ah non, puis les maladies mentales.
On dit, et voilà, ça fait peur. Il n'arrive pas à monter, donc il le joue. Il fait une adaptation. Il le joue au théâtre pendant 6 mois, en espérant que le succès théâtral, s'il y a, lui permettra de le tourner. Puis le succès théâtral est moyen. Donc, et là, il rencontre Miloš Forman.
Qui est tchèque.
Qui est tchèque, parce qu'il va présenter, je crois, une semaine de cinéma, enfin je ne sais pas, mais il le rencontre. Forman est un cinéaste, juste, on va reparler après. Et alors, pour finir cette histoire, il n'arrive pas à monter le film. Et curieusement, c'est son fils, Michael Douglas, qui 10 ans après va produire le film. Kirk Douglas espère jouer le rôle, mais on lui fait comprendre un petit peu violemment qu'il commence à être un assez vieux pour jouer le rôle, et donc c'est là que Jack Nicholson est engagé, et le film va en effet connaître le succès que l'on sait. Alors quant à Miloš Forman, lui, alors moi je conseille vraiment à tous ceux qui nous écoutent de voir ses premiers films,
Ah ouais.
Tchèques qui ah sont ouais. une merveille. Les amours d'une blonde.
Les amours d'une blonde, la scène de la bague.
Qui est une poésie, qui est une. Alors c'est très différent de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mmh. Et puis aussi au feu les pompiers, qui est une satire du monde communiste, qui est absolument formidable.
D'ailleurs, la satire du monde communiste, on y reviendra, mais on peut aussi la considérer dans ce film.
Hein, mais tout à fait, parce qu'en fait, moi je crois, et d'ailleurs il l'a dit lui-même, quand il reçoit le scénario, c'est pas tellement la psychiatrie qui intéresse Milosevic.
C'est l'enfermement.
Et l'autorité. Et d'ailleurs, il écrit une lettre, un petit mot enthousiaste en disant « Cette infirmière, c'est mon communisme,
en quelque sorte.
Oui. » Et il est évident à revoir le film que ce qui lui plaît, c'est de montrer à quel point on peut enfermer les gens dans un petit cercle comme ça. Et la scène la plus importante, je pense, pour Forman, c'est lorsque le personnage principal, Nicholson, découvre que la moitié de ceux qui sont là avec lui sont là volontairement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont enfermés parce que leur esprit vacille, mais certains se sont fait enfermer volontairement. Et je pense que pour Forman, c'est ça. C'est le communisme où, volontairement, les gens acceptaient de vivre sous les joues et la tyrannie. Et évidemment que tout le film est un appel à la révolte contre les tyrannies, la tyrannie communiste. Ça, c'est tout à fait clair.
C'est tout à fait clair. Et on le voit dans une série que j'ai revue, qui a été faite par Serge Dully et Marie Génin, Il était une fois, qui reprend justement les films cultes et les remet dans le contexte. Et donc là, on a des interviews 20 ans après des principaux acteurs et réalisateurs de ce film. Et cette notion-là apparaît très clairement. Enfin, en tous les cas, Miloche l'exprime très clairement dans cette interview. Alors, lui, il a quand même une vie très particulière parce qu'il va partir.
Hein. Il va partir.
Il va partir de Tchécoslovaquie.
Il est à Cannes justement en 68. Lorsque Au feu les pompiers est présenté dans le fameux festival interrompu. Et d'ailleurs, Forman va pas comprendre exactement ce qui se passe. Il est très prudent à l'époque parce qu'il sait bien qu'il ne peut pas trop l'ouvrir, en quelque sorte, sans avoir des ennuis. Mais il dira que au moment où eux luttaient contre le communisme, certains en France semblaient le désirer et ils ne comprenaient pas. Il est passé à côté de 68 simplement parce que le 68, lui, il l'avait vécu. Et donc, dès qu'il a pu partir aux États-Unis, il est arrivé à partir et il a fait la brillante carrière que l'on sait.
N'oublions pas qu'il va assister à ce moment-là à la fin du printemps de Prague.
Voilà. Il part tout de suite après 69, 70. Et donc, son premier film américain, c'est Taking Off, qui aura un petit succès. Puis ensuite, ça sera Hair. Ça sera surtout Vol au-dessus d'un nid de coucou. Valmont. Et Amadeus, que j'oublie.
Alors, comme vous parlez de la situation politique et qui est importante pour comprendre les dessous de ce film, à l'époque, et là je vais me tourner vers Jean-Pierre Ollier, à l'époque, n'oublions pas qu'il n'y avait plus d'opposants politiques officiellement en Russie soviétique, Dixit Khrouchtchev, il n'y avait que des fous. Ce qui veut dire que l'emprisonnement, de fait, pour des déviants ou des contestataires, sous le terme de la folie, était une pratique qui a été courante et qu'on a appris avec en particulier Bukowski, qui est resté 12 ans avant de faire enfermer, avant de pouvoir faire valoir le fait qu'il n'était pas fou, mais qu'il était un opposant politique. Donc on a, je dirais... On a tout cet aspect-là, hein, je dirais, d'une psychiatrie politique. Situation, évidemment, qui, j'espère, n'existe plus, mais elle peut exister ici ou là. Dans cette psychiatrie donc politique, on rentre quand même, on va rentrer dans différents aspects aussi de l'état de la science, l'état du moment, hein, c'est-à-dire, puisqu'on va voir, on est avec la camisole, on est avec, je dirais, les
électrochocs.
Les électrochocs, qui sont assez impressionnants, surtout joués par Nicholson. On est avec, je dirais, la lobotomie. Hein. Donc, alors, un mot sur la lobotomie, qui a été couronnée, rappelons-le, par un prix Nobel, 49.
Absolument.
Donc avec un médecin portugais qui a tout fait d'ailleurs pour avoir ce prix Nobel. Et 49, hein, c'est tard hein, quand même. Parce que la trépanation, qu'est-ce que c'est ?
Je voudrais dire que la médecine peut être utilisée à des fins politiques. Toute la médecine, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le nazisme. Et effectivement, dans l'histoire de la psychiatrie, il y a cet épisode douloureux de l'utilisation soviétique à des fins politiques de la psychiatrie, de l'enfermement. Le film que vous avez choisi, là, est tout à fait, pour moi, est tout à fait passionnant, parce que il pose très bien la problématique de la déviance sociale et des éventuels liens entre la déviance sociale et la maladie mentale. C'est vrai qu'il y a des liens. La déviance sociale peut nourrir, peut faciliter l'exclusion sociale, faciliter l'éclosion de la maladie, et la maladie, évidemment, peut faciliter la déviance sociale. Et donc, Nicholson, et le personnage et le choix du thème est tout à fait fantastique pour moi dans le film. Alors, pour répondre à votre question sur la lobotomie et l'électrochoc, eh bien, ce sont des sujets de pleine actualité en psychiatrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, pour traiter certaines affections mentales très particulières, très, très douloureuses, très difficiles, très résistantes aux autres modalités thérapeutiques, il y a une technique neurochirurgicale qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Et par exemple, des troubles obsessionnels compulsifs gravissimes, c'est une maladie absolument horrible, de personnes qui sont handicapées, de familles qui sont détruites par des malades qui se savent malades, mais qui sont gagnés par la folie du doute, des besoins de rituels, de vérification, qui empêchent toute vie quotidienne et voire toute vie familiale.
Ça se manifeste comment les...
Bien, par le fait que ces personnes sont envahies par des idées obsédantes, qu'elles savent ridicules, mais qu'elles ne peuvent pas maîtriser. Ces idées obsédantes, ces personnes essaient de lutter contre ces idées, et elles construisent pour ça des rituels. Et des rituels, par exemple. Si avant de franchir la porte, je dis trois fois tel propos, eh bien, je pourrais franchir la porte sans que ce soit pénible. Puis après, le rituel devient obsédant lui-même. C'est-à-dire que si avant de dire trois fois je ne sais quoi, je tourne deux fois dans la pièce, que je dise trois fois, je pourrais franchir la porte. Et puis, le rituel, enfin, donc, il y a comme ça, et quelque chose qui devient
envahissant.
Totalement invalidant. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on peut utiliser des techniques neurochirurgicales pour traiter ce type de maladie. De même, des dépressions chroniques gravissimes peuvent être traitées par stimulation.
Alors, juste un mot, cette stimulation cérébrale qui a été mise au point par les équipes de Grenoble.
Pour le Parkinson.
Pour le Parkinson.
Et là, on s'est aperçu des effets émotionnels et idéiques de ces stimulations. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'utilisation.
En observant.
Ah, absolument.
On n'était pas parti pour.
Non, absolument pas. Et ceci nous permet de lire ce que pouvait provoquer ce qu'on appelait la lobotomie, qui était hélas pour le coup, parce que l'avantage de la stimulation, évidemment, c'est que c'est réversible. Et que la lésion produite est très minime, ou les lésions produites sont très minimes. Alors que la lobotomie, c'était approximativement une lésion des fibres entre le frontal et le thalamus, frontothalamique, et puis c'était irréversible.
Mais avant de venir sur ce geste chirurgical, enfin pseudo-chirurgical d'ailleurs au début, aujourd'hui, on peut vraiment dire, Jean Pérolier, qu'il y a une possibilité de traitement par la stimulation profonde. Elle est réalisée ou elle est encore en voie de recherche?
Elle est réalisée de plus en plus. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui existe dans le film. Parce que ce qui existe dans le film, d'abord l'indication est absolument détestable. Deuxièmement, les modalités d'application ne sont absolument pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Quand j'étais étudiant en médecine, nous pratiquions, et que j'étais externe, on pratiquait des électrochocs, la stimulation c'était à peu près, le malade c'était à vif, etc. Aujourd'hui, ce sont des techniques de stimulation cérébrale. Oui. Ces techniques de stimulation cérébrale sont de trois types aujourd'hui. Électrique, c'est la variante moderne de l'électrochoc. sous une brève anesthésie générale.
On est sous anesthésie générale, alors que dans le film...
Oui, en paramétrant la stimulation pour obtenir une réponse électrophysiologique que l'on sait être thérapeutique et non toxique. Alors qu'autrefois, c'était comme ça, de manière très... Et donc, ça, c'est la première technique de stimulation. Il y a deuxièmement les techniques de stimulation magnétique. C'est-à-dire qu'on place un champ magnétique au niveau cérébral, on choisit les zones, on choisit l'intensité de la stimulation, et on peut traiter comme ça certaines pathologies. Et puis, il y a la stimulation par voie chirurgicale, cérébrale, profonde, du noyau subthalamique.
C'est une aiguille qu'on insère.
Voilà. Merci pour cette précision pour les profanes.
Non, c'est stéréotaxique. On détermine la zone, et puis on va mettre une électrode.
Si vous voulez, non, mais aujourd'hui, les indications, je dis évidemment, les indications médicales, les indications psychiatriques sont clairement définies. C'est-à-dire que, globalement, ce sont des techniques thérapeutiques pour des cas gravissimes ayant montrer l'impossibilité d'amélioration par les autres techniques, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient chimiques. Donc ce sont des indications de deuxième ou troisième ligne.
Pardon de vous poser cette question extrêmement naïve, mais est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas nocif, quoi, en quelque sorte? Parce que, après tout, dans le film, on disait que c'était pas nocif, les méthodes de jadis. Alors, est-ce que ce n'est pas un retour en arrière? Pardon de vous poser cette question.
Vous savez, la vie et la médecine sont toujours des balanciers.
On a quand même une évaluation qui est plus pertinente aujourd'hui qu'il y a 50 ans.
Si vous voulez, d'une part, au contraire, si on parle de la stimulation électrique dans l'électrochoc, qui est la chose la plus... pour laquelle l'imagerie populaire a construit l'idée que ça pouvait faire des trous dans le cerveau, si je puis dire. Non, tel que c'est pratiqué aujourd'hui, on sait au contraire que cette stimulation électrique favorise la neurogénèse. C'est-à-dire qu'elle favorise la bonne santé des neurones, puisqu'elle favorise, elle stimule la sécrétion des produits neurotrophiques, c'est-à-dire des nutriments des neurones. Et donc, il n'y a absolument pas de destruction neuronale, contrairement à ce qu'on a pu croire. Et contrairement à ce qui pourrait se passer si on provoquait des stimulations électriques inconsidérées en termes d'intensité, de durée, etc. Bien sûr, on peut détruire un cerveau si on se met à appliquer de l'électricité, mais c'est pas du tout ça. C'est une thérapeutique qui est devenue très codifiée et on fait un monitoring, un enregistrement des effets électrophysiologiques concomitants et à la suite de la stimulation par l'électrochoc d'aujourd'hui.
Donc plusieurs types de stimulation, des cellules du cerveau, puis il y en a d'autres, il y a le tissu glial aussi qu'on a.
C'est lui qui fabrique.
Qu'on a découvert relativement récemment. Oui. Donc l'analyse du cerveau, la connaissance du cerveau, c'est quelque chose qui vraiment ces 15 dernières années, développe énormément sur le mode de fonctionnement et tout ça, sur la de ces cellules dont il y a plusieurs types de tissus, c'est ce que je disais, il y avait les fameux neurones que tout le monde connaît pour les avoir étudiés à l'école, et puis le tissu glial qui était considéré comme un tissu de soutien mais qui en fait est un réseau extrêmement important.
Ce tissu glial, qui fabrique les nutriments, les facteurs neurotrophiques qui nourrissent les neurones, qui est quelque chose qui est effectivement très, très important. Mais aujourd'hui, en plus, on découvre dans le cerveau l'importance des voies de transduction intracellulaire. Je veux dire quelque chose que je trouve fabuleux, c'est le fait que des facteurs environnementaux puissent impacter ces voies de transduction intracellulaire et donc puissent modifier, intervenir ou interviennent même sur nos émotions, nos cognitions et nos aspects les plus affectifs et les plus humains.
C'est passionnant et en même temps c'est un peu
terrifiant.
J'étais sûr.
C'est fascinant.
Mais, c'est important d'avoir un vrai professionnel comme Jean-Pierre Ollier pour nous expliquer il y a plusieurs types de stimulation, donc les stimulations électromagnétiques aussi qui sont à l'extérieur, un champ qui est magnétique à l'extérieur, des stimulations donc comme ce que vous venez de donner, et puis donc ce développement possible de l'introduction d'une sonde, je dirais, dans des zones très précises dont on est en train de découvrir les effets. Hein. Donc dans un instant, on va revenir par contre sur l'Antiquité, parce que ça par contre, ça ne se pratique plus. Hein. C'était la lobotomie, donc avec ce prix Nobel de 49, mais ça mérite qu'on y revienne dans un instant.
Matière à penser, René Friedman.
Voilà, vous êtes sur France Culture, vous venez d'écouter One Flew Over the Cuckoo's Nest, c'est-à-dire la musique du film Vol au-dessus d'un nid de coucou, puisque c'est le thème de notre rencontre aujourd'hui.
C'est un titre un peu idiot d'ailleurs, parce qu'en français...
Alors, je sais pas d'où ça vient, ce titre.
C'est parce que je crois tout, parce que en effet, coucou, ça veut dire, cinglé, enfin, en américain. Donc, et je crois que le distributeur a eu peur, encore une fois, le sujet faisait peur, il a eu peur de mettre le mot dingue, cinglé dans le titre. Donc, le titre aurait dit, quelqu'un survola un nid dingue, quoi, en quelque sorte. Et il a préféré garder le coucou en anglais, ce qui vole au-dessus d'un nid de coucou, on se demande pourquoi.
On se demande ce que c'est, mais maintenant que vous l'avez expliqué, Pierre Murat, on est mieux. On est effectivement dans un service de psychiatrie à une époque ancienne, plus ancienne, dans la ville de Salem, hein, d'ailleurs. Alors, ce qui est étonnant dans le film qui a été fait, c'est que des patients ont participé à ce film. Et ils étaient volontaires, les médecins.
Là aussi.
Les médecins.
Avec des volontaires.
Non, mais ils étaient patients.
Oui, oui, oui.
Et ils vont jouer. Alors, il y a des comédiens, un mélange de comédiens, bien sûr. Dont Nicholson. Et puis surtout, cette adjudante-chef, là, presque capot, entre guillemets, dont on va parler. Oui. Mais auparavant, parce que dans la première partie, on a évoqué la lobotomie. Et j'aimerais qu'on explique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce prix Nobel et pourquoi on ne le fait plus, surtout ?
Parce que la lobotomie avait une efficacité sur certaines souffrances mentales. Et elle avait une efficacité notamment dans des cas de mélancolie chronique et dans des cas de trouble obsessionnel également. Et je dois dire que j'ai vu la fin de la lobotomie. J'ai connu des patients... Et pour lesquels ont été posées des indications de chirurgie destructrice. Alors, j'ai pas connu la lobotomie aussi approximative.
Avec le pic de glace,
avec
comme
le
c'était.
Pic de glace par voie
vous connaissez l'histoire?
Par voie transorbite.
Alors, l'histoire, c'était que, aux États-Unis, il y avait un médecin qui avait une espèce de camion.
Qui circulait, voilà.
Qui circulait avec un pic à glace.
Ouais. Et il faisait des trucs.
Il était demandé, donc, ici ou là, pour des cas très difficiles, bien sûr, sur lesquels il n'y avait pas tellement de solutions. Mais alors, il mettait le pic à glace
transorbitaire.
Transorbitaire.
Il faisait l'essuie-glace. Et il faisait l'essuie-glace.
Et puis, il faisait, voilà. Il détruisait comme ça, sans autre.
Alors, il y a eu ça, hein.
Et, voilà, j'espère. Et il y a eu, il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de femmes, hein, beaucoup de femmes. 85% des cas, c'était des femmes en situation de.
C'est toujours les femmes qui paient dans ces cas-là.
Beaucoup. Ouais. On pourrait revenir sur l'hystérie et d'autres choses, mais enfin, bon, voilà. Et en particulier une célèbre, puisque c'était une des sœurs Kennedy, hein, qui a été traité comme ça. Et le problème, c'est que voilà, certains sortaient comme des légumes.
C'est ça.
Et donc,
Mais il y a eu une évolution, parce qu'après la neurochirurgie destructrice consistait à poser une particule radioactive à l'intérieur dans une zone cérébrale pour détruire précisément donc une particule d'yttrium radioactive pour détruire lentement les zones frontothalamiques supposées porter cette sensation insupportable de douleur et en particulier de dépression chronique. Et je dois dire que moi j'ai vu des résultats positifs, mais c'est sûr que plus antérieurement, c'était destructeur, et les résultats positifs, c'était au prix d'un syndrome d'indifférence et d'apathie, hein, de personnes qui étaient légumisées, si je puis dire, qui étaient absolument pouvaient pas être un objectif thérapeutique. Donc, la lobotomie n'est plus pratiquée, et donc, pour répondre à la question, pourquoi le prix Nobel? Parce que, à l'époque, effectivement, il s'est avéré que certaines dépressions chroniques extrêmement invalidantes pouvait être amendé par ce type d'action destructrice.
Cependant, c'était très discuté, très contesté.
Oui. Et puis surtout après, ce que vous disiez, l'histoire aux États-Unis de ce médecin qui avait sa camionnette et qui faisait le tour, avait son pic à glace et qui faisait l'essuie-glace à qui on lui proposait.
Quelle horreur, mon Dieu, oui.
Oui, bien sûr. Ouais.
Mais on est dans une phase où, je dirais, quand le film a été fait, hein, ce film donc vole au-dessus d'un nid de coucou, les associations de psychiatres américaines se sont opposées à la diffusion de ce film. Il y a eu tout un mouvement, au point même qu'ils ont refait des documentaires pour montrer que ça ne se passait pas comme ça, parce que effectivement, on va dire, l'électrochoc, sur une personne non endormie, c'est assez épouvantable. Donc ils ont essayé de compenser, mais ils n'ont pas réussi. Hein,
dans l'esprit des gens, l'électrochoc égale légumes.
Il y avait l'image de cette surveillante absolument redoutable, détestable. Je voudrais dire quand même que tout à l'heure, vous êtes beaucoup arrêté sur les personnes qui étaient volontairement dans cet hôpital. Vous savez, il y a des personnes qui ont un handicap psychique qui fait qu'elles peuvent être en attente, en demande d'un asile au sens noble du terme, évidemment, hein, c'est-à-dire d'un endroit qui les protège des exigences d'une vie quotidienne dans un milieu ordinaire. Et, je dirais, la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, ces personnes soient éventuellement prêtes à payer un prix indu pour ce type de protection. Et donc, là, dans le film, qu'il y ait eu des personnes comme ça qui se replient... Vous savez, dans les prisons, il y a des personnes qui finalement souhaitent rester en prison finalement et finissent par s'hyper-adapter et par se désadapter au monde extérieur. Évidemment, ça peut pas être un objectif, mais c'est quelque chose, une manière de poser le problème qui mérite d'être posé.
Bien sûr, mais moi je faisais surtout allusion à Forman, pour qui le fait que c'était des prisonniers volontaires, en quelque sorte, accréditait la thèse que le communisme pouvait absolument... Enfin, qu'il y a des gens qui aidaient le communisme presque volontairement par leur passivité, voilà. Mais pour l'infirmière, qui est en effet absolument horrible, mais moi j'ai relevé une phrase...
Elle est belle quand même.
Louise Fletcher, oui. Elle a eu l'Oscar d'ailleurs, elle
oui, absolument. Aussi,
pour le film.
Et dans la série de Julie et Génin, là, on la revoit 20 ans plus tard, donc elle est plus tout à fait la même.
Elle n'a pas fait en plus la grande carrière que l'Oscar lui prédisait. C'était Jane Fonda qui était prévue à un moment donné.
Marlon Brando ou Jane Fonda?
Oui, Jane Fonda. Mais Jane Fonda aurait donné autre chose comme ça encore. Oui. Mais moi, juste parce que j'ai relevé une phrase qu'elle dit, parce qu'évidemment c'est quelqu'un qui, pour Forman et pour Nicholson dans le film, constitue l'ennemi, et le film est fait comme une sorte de duel à mort entre un individu et elle qui représente l'autorité. Mais à un moment donné, lorsque on menace de renvoyer Nicholson, elle a cette phrase. Elle dit, si vous renvoyez le personnage de Nicholson, ou bien si on le mettait chez les agités, entre guillemets, eh bien ce serait se décharger sur les autres, de notre responsabilité. Or, on n'est pas là pour ça. Moi, je souhaite le garder pour l'aider. Alors, c'est bien sûr peut-être une hypocrisie de sa part, puisqu'elle veut se mesurer à lui et le réduire à néant. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas finalement un personnage extrêmement positif ? C'est la mission des médecins que de...
C'est peut-être une relation un peu sadomaso, quand même.
Oui, certainement.
Cette idée, mais...
Non, mais j'essaie de la défendre.
Oui, j'ai bien compris qu'elle ne vous déplaisait pas.
Oui, moi, je vous disais que j'avais beaucoup aimé le choix du personnage, hein, remarquablement campé par Nicholson, mais le choix du personnage parce que effectivement, il pose la problématique de ces personnes qui sont mal adaptées, inadaptées à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a en psychiatrie une catégorie sur laquelle la psychiatrie n'est pas très à l'aise, qu'on a longtemps appelé les personnalités psychopathiques et qu'on appelle aujourd'hui les personnalités antisociales. Vous voyez qu'on n'a pas quitté ce problème de qu'est-ce que la médecine, qu'est-ce que la psychiatrie peut apporter ou ne peut pas apporter à la déviance et au comportement antisociaux. Et je puis vous dire que la psychiatrie, les établissements psychiatriques et la prison, pendant des années, se sont renvoyés la balle pour ces types de personnalités qui commettaient des actes antisociaux et qui tantôt se trouvaient en prison, tantôt se trouvaient à l'hôpital psychiatrique. Et donc, la parole de cette caporale chef, je préfère l'appeler comme ça qu'infirmière, ce caporale chef, au fond, moi je l'ai entendu de cette manière, c'est-à-dire que il est perturbé, son comportement est perturbé, et donc il ne faut pas qu'on recule, il faut qu'on arrive à le soigner. Ce qui est évidemment une démarche extrêmement dangereuse, parce que il faut avoir, pour proposer des soins à une personne, il faut avoir des arguments cliniques et surtout des arguments thérapeutiques. Or, la psychiatrie est très dépourvue face à ces troubles du comportement social. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la recherche, aujourd'hui, il y a des recherches qui essaient de montrer dans cette catégorie des personnalités déviantes, ce qui nous renvoie à la question de la radicalisation, d'ailleurs, très actuelle. Parmi les personnes en radicalisation, lesquelles le sont ou peuvent être considérées ou doivent être considérées comme porteuses d'une maladie qui détermine leur radicalisation et lesquelles ne le doivent pas. Et ça, c'est un enjeu très difficile pour la psychiatrie depuis longtemps et aujourd'hui pour le problème de la radicalisation.
Alors, la psychiatrie est donc bousculée, hein, avec ses... Elle a été bousculée aussi positivement avec l'arrivée des neuroleptiques, hein, nouvelle façon aussi de traiter les médicaments, peut-être trop. On dit aussi que la consommation de neuroleptiques est peut-être trop importante.
Non, pardonnez-moi. Dans les médicaments psychotropes, il y a diverses familles. Les neuroleptiques, qui sont des médicaments utiles sur les symptômes de maladies psychotiques, je dirais, sont utilisés a priori de manière raisonnable. Il y a deuxièmement les médicaments antidépresseurs. Et là, il commence à y avoir un débat sur le bon usage de ces médicaments antidépresseurs qui sont efficaces dans les cas où il y a une maladie dépressive, mais qui sont inefficaces pour nos ordinaires bleus à l'âme.
Sortes d'humeur.
Voilà. Et puis, il y a troisièmement une catégorie très problématique qui sont les anxiolytiques ou benzodiazépines qui sont trop utilisées en France comparativement à d'autres pays et qui ont l'inconvénient d'être comme l'aspirine sur le mal de dents, c'est-à-dire que ça calme l'anxiété immédiatement, c'est fabuleux, mais ça ne règle pas la maladie sous-jacente. Et donc, cette catégorie-là, oui, il y a un débat justifié actuellement sur le bon usage. Il y a un débat justifié sur les antidépresseurs et leur bon usage, mais sur les neuroleptiques, non, il n'y a pas problème, là.
Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Jean-Pierre Ollier, que dans les maladies mentales, on arrive quand même à traiter et qu'il faut considérer qu'on a des outils pour guérir.
Écoutez, moi j'ai fait mien l'adage de Esquirol, qui a été un psychiatre au 19e siècle, très connu, un certain nombre d'hôpitaux portent son nom. Il disait « guérir parfois, soulagé souvent, accompagné toujours. Et ça, c'est la réalité de la psychiatrie, je crois, de la médecine d'ailleurs.
Oui.
Et donc, effectivement, en psychiatrie, nous savons aujourd'hui guérir un certain nombre de maladies. Les maladies dépressives, on ne meurt plus de neurasthénie. On soigne, 80% des personnes soignées en psychiatrie aujourd'hui sont soignées en ambulatoire. On a réduit en France de 120 000 lits de psychiatrie, on est passé à 50 000 lits. Donc, effectivement, les personnes vivent dans la cité. Je considère aujourd'hui qu'on oublie trop ou qu'on méconnaît trop que nous pouvons guérir les personnes qui sont porteuses de maladies mentales, comme chacun d'entre nous peut un jour être porteur de maladies.
C'est-à-dire que, est-ce que cette position vise à considérer avec plus de calme la maladie mentale comme une autre type de maladie, comme on a considéré à un moment donné le cancer qui était affreux, et qui est toujours affreux d'ailleurs, mais qui est devenu quand même dans une maladie chronique, on va dire.
J'adore votre comparaison. Vraiment, je la fais mienne. C'est tout à fait. Il faut aujourd'hui sortir de la stigmatisation qui continue à peser sur ces maladies. Il n'y a pas les fous et les non-fous. Chacun de nous peut être un jour ou l'autre soumis à une symptomatologie de maladie mentale, comme chacun de nous peut un jour ou l'autre être soumis à une maladie telle que le cancer. Et il faut que même dans le milieu des soignants, même dans le milieu professionnel, il faut sortir de cette stigmatisation qui consiste à considérer comme incurable et uniquement on peut juste accompagner. Non, on peut guérir un certain nombre. Alors, bien sûr, comme le cancer, la maladie mentale peut laisser des cicatrices, hein, et elle peut laisser un niveau de handicap, bien sûr, et là, il faut accompagner très fort. Mais il y a aussi un certain nombre de malades, même les malades souffrant de schizophrénie, eh bien, un certain nombre sont tout à fait guéris.
Jean-Pierre Ollier, vous pensez que la recherche dans ce domaine des maladies mentales a un avenir énorme devant ?
Bien sûr. C'est une ouverture pour connaître mieux l'humain. Puisque ce sont les maladies les plus humaines des maladies, puisqu'elles touchent nos façons de penser, d'aimer, de réagir, de nous comporter. Et donc, cette recherche est tout à fait essentielle pour connaître mieux l'humain. Alors, il ne s'agit pas de réduire les maladies mentales à des maladies du cerveau, c'est plus complexe, hein. Je veux dire, les maladies mentales sont à la fois contemporaines, concomitantes de dysfonctionnements neuronaux, mais elles sont évidemment aussi produites par l'appareil psychique, si je puis dire. Donc, il y a à la fois toujours cette composante psychique et biologique, biologique et psychique. Mais aujourd'hui...
Ce lien est d'ailleurs passionnant.
Il est passionnant.
Hein, entre la psychanalyse, la psychiatrie...
Il caractérise l'humain, hein,
mais voilà.
Plus profond. Alors en France, la recherche en psychiatrie, enfin dans ce domaine, est très en retrait par rapport à d'autres pays. Pour la recherche en psychiatrie, aujourd'hui, la France consacre 4% du budget de la recherche médicale. Aux États-Unis, c'est près de 20%. En Angleterre et en Espagne, c'est près de 10%. Donc en France, nous venons d'atteindre le niveau de 4%. Donc il faut poursuivre, bien sûr, parce que on comprendra de mieux en mieux et on aura de plus en plus des thérapeutiques personnalisées, mieux ciblées. Je vais prendre un exemple. Un exemple qui est ce qui se produit dans le cancer que vous avez cité. Les oncologues ont aujourd'hui des outils thérapeutiques qui ont des cibles biologiques très précises.
Une personnalisation
et donc,
du cancer.
Nous sommes sur cette voie. Par exemple, je vous citais tout à l'heure la méthylation de certains récepteurs qui peut modifier complètement nos façons de se comporter ou de réagir émotionnellement. Et donc, des cibles thérapeutiques de ce type, évidemment, sont à viser aujourd'hui. Je termine. Un exemple. Il y a un anticancéreux qui avait été très efficace, ça va vous intéresser, René Friedman, c'était un inhibiteur d'une, je ne sais plus quelle phosphokinase, très efficace dans le traitement du cancer du sein chez la femme. Il a dû être arrêté en phase 3 en raison des symptômes dépressifs gravissimes qu'il provoquait. Voilà un exemple du lien profond entre la biologie et la psychologie et la symptomatologie de maladies mentales. Et cet exemple négatif, évidemment, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de l'inverser en exemple positif, c'est-à-dire d'identifier les effets psychotropes de molécules qui agissent sur des cibles très précises.
Alors, bien sûr, dans le domaine de la psychiatrie, il y a énormément de choses à dire. En particulier, justement, vous avez signalé l'ouverture, la diminution de l'enfermement.
Bien sûr.
Avec une activité beaucoup plus ambulatoire.
La diminution des femmes, c'est pas si simple parce qu'en France, non. Hélas, il y a moins de lits, mais il y a eu les dernières années de plus en plus d'hospitalisations sous contrainte.
Alors, vous disiez tout à l'heure le problème prison-hôpital psychiatrique, c'est vrai qu'il y a de temps en temps responsable par responsable et où est-ce qu'on envoie la personne, hein. Ça, c'est un autre.
C'est un drame dans notre pays. C'est un drame.
Un problème.
Dans la population générale, 1% de personnes souffrent de schizophrénie. Dans la population carcérale, 15%. C'est un drame dans notre pays qui retourne avant Pinel, c'est-à-dire qu'on ne discrimine plus parmi les délinquants, les malades mentaux, pour les envoyer à l'hôpital au lieu de les envoyer en prison. C'est un drame. Et malgré ça, dans notre pays, dans la dernière année, il y a eu une augmentation honteuse du nombre d'hospitalisations sans consentement sur décision préfectorale. Je ne dis pas que les psychiatres n'ont pas leur responsabilité là-dedans, je ne dis surtout pas ça. Mais c'est un constat qui est absolument effarant.
Et quelque chose, pardon, je voudrais juste poser une question. Ce qui fait peur dans le film, et je voudrais que vous réagissiez là-dessus, c'est quand même la toute-puissance du savant, du professeur, c'est-à-dire que il est Dieu. Et d'ailleurs, Forman filme à un moment donné.
Il est Dieu.
Oui, c'est ça. Et non, mais voilà, c'est ça. Et il le filme comme ça, Forman. Il le filme à un moment donné. Des cachets à tous les malades, comme une hostie. On est à la messe en quelque sorte. Et donc, est-ce que ça a changé? Est-ce que vous pouvez, parce qu'à un moment donné, il y a une scène magnifique où on dit à Nicholson, mais mon petit gars, tu sortiras pas au bout de 2 mois comme tu le crois. C'est nous qui décidons quand tu sors et c'est nous qui avons le pouvoir de te garder. Est-ce que c'est pas ça qui fait encore peur? Voilà, je crois que Régis est là-dessus.
Parce que le constat d'une augmentation d'hospitalisation sans consentement en France me fait vous répondre que nous avons encore du progrès, du chemin à faire. Cela dit, la relation entre le médecin et son patient, que ce soit en psychiatrie ou ailleurs, n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était il y a un demi-siècle, bien évidemment, et heureusement à mon avis.
Nous voilà peut-être arrivés à cette étape de ce film, Vol au-dessus d'un nid de coucou, un envol encore. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, en particulier sur l'état de la psychiatrie en France aujourd'hui, avec ce problème de la santé. On voit bien, nous sommes en novembre 2019 et ça va bouger un peu dans tous les hôpitaux, y compris les hôpitaux psychiatriques. Le monde psychiatrique bouge beaucoup parce qu'il est dépassé en termes de moyens
très
disponibles. Très malheureux. Donc on n'a pas le temps d'analyser ça, mais on peut quand même le signaler, qu'on est bien conscient de cette situation générale de l'état de santé, et particulièrement de l'état de santé du système de santé, et particulièrement dans les maladies mentales. Quoi qu'il en soit, le film que nous avons disséqué ensemble sur la maladie mentale nous permet justement d'aborder avec peut-être moins de rejet cette maladie de nos jours, parce qu'il y a des traitements que nous avons appris et que nous avons compris, cette humanité qui existe aussi dans ce milieu-là. Je vous invite donc à voir ce film, à réécouter cette émission autant que vous le souhaitez, puisque nous avons d'une part Pierre Murat et Jean-Pierre Ollier qui se sont donnés à fond dans la discussion. Et puis nous avons aussi Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Romain Masson, Justine Wild et Benjamin Vignal qui ont permis la réalisation de cette émission. Vous pourrez la réécouter autant que vous voulez en vous mettant sur le site internet franceculture.fr et pour écouter à la carte quand vous le souhaitez. Demain, la suite de cette série cinéma et médecine.